Commencez chaque journée les batteries bien rechargées avec Total Energy et le Brief.
Bonjour, nous sommes le vendredi 3 mars. Voici notre regard sur l'actualité, l'essentiel pour celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre.
Le Brief de l'Écho.
La Banque nationale présentait hier son rapport annuel. C'est un gros morceau, ce document, très attendu par les analystes pour juger de la santé de notre économie. Les réactions affluent après que Vincent Van Petegem a dévoilé les grandes lignes de sa réforme fiscale. Du côté politique, ça tire déjà à boulet rouge sur certains aspects. Du côté des économistes, il y a à boire et à manger. Le burger végétal à base de protéines de pois conçu en Wallonie a un peu de mal à convaincre les amateurs. Le youpi n'est pas vraiment à la fête.
Le Brief, cette info, dès 7h.
Nous avons gagné la première guerre du gaz. Hier, Pierre Wunsch, le gouverneur de la Banque nationale, était plutôt rassuré en présentant le rapport annuel de la BNB. Il tirait le bilan de ces derniers mois, plutôt mouvementé, mais il s'est dit confiant pour l'avenir. Il dresse le portrait d'une année 2022 compliquée, tout en contraste. Écoutez-le, interrogé par l'un de nos journalistes politiques, Corentin Di Prima.
C'est une année de guerre, c'est une année d'inflation très très élevée, de prix de l'énergie très élevé. Mais ça a aussi été finalement une année de croissance assez robuste. On a créé 100 000 emplois. En fait, on n'avait jamais vu ça. Je crois que c'est aussi important de dire qu'on a gagné la première bataille du gaz. Collectivement, on a tous fait des efforts. Et ça a payé, puisqu'on a eu les prix du gaz qui avaient flambé à 300 euros et qui sont retombés en début 2023 à moins de 50 euros. Et finalement, nous nous attendions à une légère récession fin 2022, qu'on n'a pas connue. La croissance est restée positive. Donc maintenant, on s'attend à une reprise, peut-être pas très vigoureuse, mais une reprise en 2023. Donc l'économie belge a vraiment bien résisté et mieux qu'attendu.
Alors une des satisfactions du gouverneur, c'est la bonne tenue du marché de l'emploi. On a continué à engager, à créer des jobs malgré les crises.
Face au choc pétrolier, les travailleurs dans les années 70 avaient continué à exiger des augmentations de salaire. Et finalement, on avait buté contre une détérioration très 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 marquée de la rentabilité des entreprises. Ici, on a partout en Europe... Moi, en Belgique, parce qu'on a l'indexation automatique, en fait, observer une modération salariale très forte, le pouvoir d'achat des ménages a été impacté, mais les gens ont puisé dans leur épargne, et finalement, ça a permis d'absorber le choc et de le répartir entre les entreprises, les ménages et l'État, d'une manière qui n'a pas cassé la machine.
On s'en sort bien donc, mais Pierre Wunsch pointe quand même des points d'attention. Les finances publiques, qui risquent de déraper avec la hausse des taux, et la compétitivité des entreprises, entravées par l'indexation des salaires. Le rapport de la BNB pointait encore un autre point intéressant, assez préoccupant aussi. Il s'agit de l'accès à la propriété. Selon les calculs de la Banque nationale l'année dernière, il est tombé à son plus bas niveau depuis 2008. Pour quelles raisons? Qu'est-ce qui explique ces difficultés à acheter un bien? Nous avons posé la question à Xander Vlasenbroek du service Investir qui a décortiqué le sujet.
Selon les données de la Banque nationale, en fait, entre la fin 2021 et le troisième trimestre de 2022, donc ce ne sont même pas encore les données complètes, la charge de remboursement d'un nouvel emprunt hypothécaire est passée de 24,7% à 27,1% du revenu disponible net d'un ménage. Autrement dit, la part du salaire qui part dans le remboursement d'un prêt hypothécaire est à un niveau historiquement élevé, aussi élevé que depuis la crise financière de 2008. Et à l'époque, en plus, une bonne partie des intérêts étaient déductibles fiscalement, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. La raison de cette difficulté de l'accès à la propriété, en fait, elle est de deux natures. D'un côté, on a les prix de l'immobilier qui résistent en Belgique, qui continuent d'augmenter. L'année passée, ils ont augmenté de 4,5%, alors que dans d'autres pays européens, on a vu une chute, notamment en Suède, qui était un exemple qui a été beaucoup utilisé. Et à côté de ça, on a des taux hypothécaires qui ont littéralement explosé. Et donc, à cause de cela, le montant qui peut être emprunté par un ménage a chuté, forcément, sa capacité de remboursement a chuté. Actuellement, le montant a diminué de 15%. Donc un ménage peut emprunter bien moins que dans le passé. Il est devenu de plus en plus difficile d'acquérir un premier bien immobilier.
Alors on le disait, le pouvoir d'achat a donc globalement bien résisté l'an dernier. Pourtant, selon les derniers chiffres de Statbel, les prix ont fortement augmenté dans l'alimentaire. En février, tous produits confondus, ils ont subi une hausse de plus de 16%. C'est un nouveau record, évidemment. Dans le détail, ce sont les huiles, les produits laitiers, les céréales et le pain qui tirent la tendance vers le haut. Alors, c'est évidemment une hausse qui est en partie imputable à la guerre en Ukraine. Le pays était le 4e exportateur mondial de blé, le 3e en maïs, et produisait la moitié de l'huile de tournesol consommée dans le monde. Alors, selon d'autres chiffres de l'association Testachat, qui s'appuie sur un échantillon de 3000 produits alimentaires et non alimentaires en supermarché, l'inflation a atteint près de 20% en février. Désormais, selon Testachat, une famille de deux personnes doit dépenser 512 euros par mois, en moyenne, en produits alimentaires, soit 85 euros de plus qu'il y a un an. Hier, je vous dévoilais les grandes lignes de la réforme fiscale déposée sur la table du gouvernement par Vincent Van Petegem, le ministre des Finances. Le projet a déclenché son lot de réactions, évidemment, dans tous les sens d'ailleurs, du côté politique naturellement, mais aussi du côté des économistes. Et nous avons joint, entre autres, Bruno Coleman, membre de l'Académie royale de Belgique, pour lui demander ce qu'il en pense. Pour lui, c'est une réforme cohérente, logique, mais est-il enthousiaste ? Écoutez sa réponse.
D'abord, c'est une réforme assez audacieuse parce que une réforme qui est proposée en quatrième année d'une législature, c'est plutôt rare. Je pense que le gagnant, ce sera le travailleur, puisqu'on va augmenter le minimum non imposable et décaler un peu les barèmes d'imposition progressif. Par contre, le petit perdant, ce sera le consommateur, parce qu'il y a des augmentations de TVA dans certains biens, notamment de première nécessité. Le perdant un peu plus massif, ça va être l'investisseur de capital à risque, puisqu'on parle d'une augmentation de la taxe sur les comptes-titres qui serait doublée, bien que l'OMR ait déjà dit s'y opposer formellement. Donc, ça veut dire qu'on déplace la fiscalité du travail vers le capital, ce qui me semble quand même délicat, parce que ça veut dire qu'on donne un signe extrêmement négatif aux personnes qui veulent investir du capital à risque dans des entreprises.
Alors, on vient de l'entendre, le jugement est plutôt mitigé. La réforme fiscale de la Vivaldi ne fera évidemment pas que des heureux. Il faudra composer avec un jeu qui ne plaira pas à tout le monde. Mais comment pourrait-il en être autrement, d'ailleurs ? Parmi les changements proposés, il y a la proposition de simplification des règles de calcul de la pension complémentaire. Et elle soulève de nombreuses questions. L'avocate spécialiste des pensions au cabinet Unity, Corinne Merla, nous explique les différences entre le système actuel et le système prévu.
Une des règles pour pouvoir déduire dans le chef de l'employeur ou d'un dirigeant d'entreprise les contributions qu'il verse pour financer sa pension complémentaire ou la pension complémentaire de ses travailleurs, c'est en fait que le total de la pension complémentaire constituée par le travailleur ou le dirigeant et sa pension légale ne dépasse pas 80% du revenu de sa dernière année d'activité. Si on dépasse les 80%, eh bien la partie des contributions qui génère ce dépassement n'est pas déductible. Et donc ici, ce qui est annoncé par le ministre Van Petegem, c'est vraiment une toute autre méthodologie. C'est que chaque année, en fait, on va regarder si le montant de la contribution qui a été versée pour financer la pension complémentaire dépasse ou pas 12% de la rémunération en dessous d'un certain plafond, qui est le plafond en fait pour le calcul de la pension légale, hein, actuellement à peu près 71 000 euros, et 32% de la partie de la rémunération qui dépasse. Et donc chaque année, on va comparer le montant de la contribution qui a été versée avec ces 12% et 32%.
Alors revenons à des choses un peu plus terre-à-terre, concrètes. Le burger végétal wallon à base de petits pois a encore du mal à stimuler l'appétit. Lancé il y a un an, Youpi est né d'un partenariat entre les deux entreprises agroalimentaires, Vlevia et Cosucra. Il ne rencontre pas encore le succès espéré. Il a dû même revoir sa recette pour répondre aux exigences des consommateurs. De nouveaux produits ont été fabriqués pour renforcer la gamme. Nous sommes avec la responsable du développement de la marque, Aurélie Maldague. Bonjour.
Bonjour.
Quelle est maintenant la stratégie de Youpi pour assurer son avenir ?
Alors, ce qu'on a fait au niveau produit, en fait, c'est que à la base, les produits qu'on avait développés il y a un an étaient des produits qui avaient des notes très végétales. Et on s'est rendu compte que ça plaisait pas forcément aux consommateurs, parce que la plupart de nos consommateurs sont en fait flexitariens, c'est-à-dire que ils mangent de la viande, ils apprécient la viande, et c'est pour ça qu'on finalement on a reformulé nos recettes pour arriver à quelque chose beaucoup plus viandé, Et on voulait que le packaging reflète justement cette passion pour la nourriture et ses qualités gustatives. On a pensé que c'était quand même très important de donner en fait finalement peut-être un avant-goût de ce que le consommateur peut espérer quand il achète notre produit en fait.
On regarde vos ventes, vous êtes déçu des premiers retours? L'objectif de la rentabilité prévu pour 2024 en tout cas est reporté d'un an.
Bon, effectivement, la conjoncture pour le moment n'est pas facile et c'est le cas pour tout le monde dans tous les secteurs alimentaires. Je vais dire, on est peut-être tombé à un mauvais moment. Mais ensuite, moi personnellement, je me dis c'est une start-up, ben, on doit pouvoir être très réactif, on doit pouvoir être à l'écoute. Et c'est ce qu'on a fait en fait les 6 derniers mois, c'est vraiment ce qu'on a fait. On laisse derrière des choses qui n'ont pas marché pour se tourner vers le futur avec des produits aujourd'hui qui sont vraiment appréciés de tous. Et on y croit vraiment, et donc voilà.
Youpi espère toujours obtenir le permis de bâtir de sa nouvelle ligne de production à Moucron en juin prochain. Une demande a été introduite dans ce sens l'été dernier. Alors on parlait de qualité gustative, restons-y à peu près, avec deux institutions bruxelloises du monde de la restauration qui sont en difficulté financière. Chez Léon et aux Armes de Bruxelles, qui appartiennent au même patron, ont en effet demandé à être placés sous le régime de la protection de réorganisation judiciaire. Les deux restaurants du centre-ville de Bruxelles n'ont jamais pu se remettre correctement de la crise sanitaire. La crise énergétique et l'indexation des salaires leur ont porté le coup de grâce, en quelque sorte. Ils doivent apurer leurs dettes dues à l'ONSS. Le but de la procédure est d'obtenir un nouvel étalement des remboursements sur une période de 4 ans. Depuis le suicide de son père il y a un an, Kevin Van Lanker incarne la 6e génération à la tête de l'entreprise. Contacté par nos soins, il tient à rassurer. Cette réorganisation judiciaire ne concerne pas les autres fournisseurs. Les chiffres sont plutôt bons et les clients sont de retour. Les deux restaurants emploient au total 150 travailleurs, une centaine chez Léon, une cinquantaine aux Armes de Bruxelles. Donc ces deux enseignes ne vont pas fermer, que l'on se rassure, mais rien que d'en parler, moi ça me donnerait presque envie d'une petite moule frite ou d'une croquette aux crevettes, tiens. Quoi, il est trop tôt ? Ah bon, d'accord. En attendant ce soir, alors je vous souhaite une excellente journée. Merci à Guillaume Cordeau qui m'a aidé à préparer le brief cette semaine, et c'est lui que vous retrouverez à partir de lundi.
À la recherche d'une solution de recharge pour vos employés, Total Energy lance sa nouvelle carte de recharge. Avec la carte de recharge Charge Plus Business, vous avez accès à plus de 500 000 points de recharge publics en Belgique et dans les pays voisins. Total Energy est votre partenaire pour les solutions de recharge au travail et au domicile de vos employés. Intéressé ? Contactez-nous via evcharge.totalenergy.be.